ouvrir le réservoir, choisir le carburant, faire le plein et regarder le compteur monter en flèche. Faire le plein fait plus que jamais mal au portefeuille. L'essence a battu un record mercredi 9 mars 2011 en atteignant 1,62€ le litre. Le diesel, lui, n'est plus très loin de son record 2008. Ce n'est pas nouveau, la tendance est repartie à la hausse. Le consommateur n'a souvent pas le choix, il a besoin de sa voiture et des carburants pour la faire avancer. À la pompe, les achats pour 5 ou 10 euros de carburant sont nombreux. Pas surprenant, quand on sait qu'il y a 7 ans, le plein était grosso modo 50% moins cher. Comment cette augmentation est ressentie par le consommateur?
Oui, là je ne fais pas le plein souvent, et là je me rends compte qu'en fait on est à 1,27 le litre, et je pense que la dernière fois j'étais à peine à 1,10, donc ça a vachement augmenté.
C'est cher, hein. C'est maintenant 1,27, et il y a 2 ans c'était combien? 87.
Ouais. Naturellement qu'il y a des augmentations de prix. C'est chaque fois, on a encore dit 3 centimes cette semaine. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? On doit rouler, hein?
À cause de ce qui se passe au nord d'Afrique, qu'il y a un hausse des prix, mais j'arrive pas encore à comprendre qu'il ne s'arrête jamais. On continue maintenant à augmenter sans arrêt les prix du carburant. Mais ça, même s'il n'y avait pas eu ces problèmes qu'il y avait en Afrique du Nord.
Le prix du baril est inférieur à celui de 2008, mais le prix à la pompe affiche des records. Cela tient à la faiblesse actuelle de l'euro. Et comme le baril s'achète en dollars, la hausse des prix est gonflée par un taux de change défavorable. Un autre facteur alimente la hausse, Marc van der Kamen, directeur du CRIOG, nous l'explique.
Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on spécule sur des situations politiques difficiles dans le pourtour de la Méditerranée, et principalement en Libye. Alors, personne ne sait dire ce qui va se passer en Libye. Alors, il y aura sans doute une solution, mais dans combien de temps, on n'en sait rien. Donc, si un terminal est bloqué et que le pétrole ne s'amène plus, ben, il y aura un peu moins. L'Europe va devoir acheter le pétrole ailleurs et les prix vont sans doute augmenter. Mais aujourd'hui, on est dans la spéculation pure. Ça veut dire que le prix, il est influencé par des gens qui disent « Oui, mais de toute façon, ça va augmenter parce que les gens vont paniquer. Donc, moi, je m'arrange pour essayer d'acheter moins cher et de vendre plus cher. » C'est ça qui pose problème.
Les spéculateurs jouent souvent sur la demande. Tandis que l'OPEP s'organise pour manipuler l'offre, elle propose des quantités de pétrole à prix suffisamment élevé pour en tirer des bénéfices, mais pas trop cher, sous peine de contrarier ses ventes. L'offre et la demande sont donc, comme bien souvent dans notre économie, les clés de l'explication du prix actuel du carburant. Monsieur Furfari, conseiller à la Commission européenne, le sait et garde ce fait au cœur de son explication du prix de l'or noir.
Les raisons de la fluctuation du prix des barils sont multiples. Elles sont des raisons de long terme, mais aussi des raisons conjoncturelles qui peuvent influencer du jour au lendemain une explosion du prix. Pour vous donner une idée, en décembre 1998, donc il y a 12 ans, le prix du baril était 8,90$. Pourquoi un prix qui vaut 8,90$ tout d'un coup monte à 110$ ou 147$ au mois de juillet de 2007? Donc là, il y a des phénomènes qui nous dépassent et qui ne sont pas des phénomènes rationnels. Ça tient tout d'abord à un cartel. La vraie difficulté vient du fait qu'il y a un cartel de prix. Qu'on le veuille ou non, il faut appeler un chat un chat. L'OPEP est un cartel qui contrôle le prix. En fonction de ça, ben, tout est possible. À la hausse ou à la baisse, en fonction de l'ouverture ou non du robinet de l'OPEP. Et puis, il y a des phénomènes conjoncturels. L'économie qui repart en Chine ou en Inde, ben, ça fait partir la demande. La crise des subprimes, ça fait chuter la demande. Et puis, une petite crise sur le canal de Suez, où il n'y a qu'un 1% du pétrole qui circule, mais ça fait exploser le prix. Donc, les marchés profitent de toutes les occasions pour gagner de l'argent. Cette montée des prix que l'on vit actuellement, ce sont surtout les spéculateurs. C'est scandaleux que des gens s'en mettent plein la poche. Le prix du baril aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est 2$. 2$. Et il arrive à 110-115$ aujourd'hui.
Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. Now you have a great chance here. But bear in mind, you can lose it all if you're not careful. Out of all men that beg for a chance to drill your lodge, maybe 1 in 20 will be oil men. The rest will be speculators. That's men trying to get between you and the oil men. them to get some of the money that ought by rights come to you.
Cet extrait du film There Will Be Blood nous montre bien que la spéculation a toujours existé. Entre les 2 dollars par baril au Moyen-Orient et les montants astronomiques qu'on paye chez nous, il existe une étape intermédiaire, et les détails, les bourses. En effet, les 2 principales bourses fixent le prix du baril, celle de New York et celle de Londres. Ainsi, le prix du baril est le même dans l'ensemble du monde. Que la Belgique se fournisse plus en Russie qu'en Libye, cela revient au même. À qualité équivalente, elle paye le même prix. Pour Jean-Marc Nizet, secrétaire général de la Fédération pétrolière belge, cela objective le prix. Mais que pense-t-il du rôle de la spéculation ?
Il n'y a pas aujourd'hui de spéculation en bourse sur les prix du pétrole. Je peux vous assurer que les 2 grandes causes de variation des prix du pétrole, et je me réfère à un article publié dans l'Économiste la semaine dernière, c'est la loi de l'offre et de la demande, et c'est la peur d'en manquer. Et ça, c'est vrai pour toutes les matières premières, que ce soit du cuivre, du coltan, du vanadium, peu importe, du blé. La spéculation n'explique qu'une toute petite partie de la variation des prix. Et ce n'est pas la cause de ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas.
Spéculation ou pas, certains consommateurs pointent la responsabilité de l'État. Ils proposent des solutions.
Ce serait certainement évitable. Comment ça, tout le monde le sait, hein. Je ne dois pas faire un petit dessin.
Diminuer la TVA, déjà les accises sur le pétrole en général. Il faut calculer maintenant pour rouler. La Libye, c'est depuis quelques semaines, mais le pétrole a augmenté déjà depuis un bon petit temps. Hein. Moi, je pense que l'État se met beaucoup plein les poches avec ça.
En effet, s'il y a hausse, l'État touche proportionnellement plus de recettes. Mais si les prix sont plus chers, la demande peut chuter et donc les recettes totales de carburant sont susceptibles de diminuer. Jean-Marc Nizet, du FPB, refuse de pointer les pouvoirs publics comme responsables d'une flambée des prix, mais propose, lui aussi, une mesure applicable par l'État.
L'État n'est pour rien dans la hausse des prix du pétrole. Quand le pétrole monte, le seul bénéfice qu'en tire l'État, ce sont des recettes TVA supplémentaires, pour ceux qui payent la TVA. Pour les entreprises qui voient leur TVA remboursée, ça n'a même pas d'impact. Et l'État n'est en rien responsable dans la hausse des prix. Il faut arrêter d'accuser l'État de cette hausse des prix. Par contre, ce que l'État pourrait faire, c'est appliquer ce qu'il a fait dans le passé, c'est ce qu'on appelait le cliquet inversé, c'est-à-dire réduire les accises, qui est un montant fixe que vous payez sur un litre d'essence, réduire les accises du gain de TVA. Je prends un cas très concret. Supposons que le prix monte de 10 centimes par litre, la TVA est de 21%, donc l'État va avoir comme recette supplémentaire 21% de 10 centimes égale 2,1 centimes. Eh bien, l'État pourrait réduire les accises de 2,1 centimes pour que ce soit pour lui une opération budgétairement neutre et pour réduire un tout petit peu la hausse douloureuse pour le consommateur.
Baisser les accises par le biais du mécanisme du cliquet inversé pourrait être une solution. Par contre, diminuer la TVA nécessiterait un consensus européen. Douloureuse, la hausse du prix du carburant ne se fera pas sentir qu'à la pompe. Les prix d'autres produits non pétroliers, eux, pourraient également augmenter. D'abord, l'électricité et le gaz suivent l'évolution du cours du pétrole. Ensuite, la hausse du coût de production des transports se répercutera sur le prix de nombreux produits de consommation courante. Marc van der Kamen, directeur de CRIOC, nous explique en quoi quelques biens sont concernés et comment.
Quand le pétrole augmente, ça influence le prix de l'électricité. Ça influence aussi le prix du gaz, avec 6 mois de retard. Et qu'est-ce que ça fait? Quand l'électricité augmente, ça influence tous les prix, puisqu'on chauffe aussi les serres au gaz, à l'électricité. Donc les serres, on cultive les légumes. Donc le prix des légumes va augmenter. Le pétrole est aussi une matière première qui ne sert pas uniquement de carburant. Donc il ne faut pas oublier que les plastiques sont faits à base de pétrole, certains savons aussi, certains produits cosmétiques. Et donc quand le prix du pétrole augmente, le prix de ces produits va aussi augmenter. Et c'est vrai qu'on oublie souvent, mais c'est plus difficile de se passer de plastique. Et donc, vous voyez en quoi le prix des produits pétroliers influence complètement l'augmentation des prix. Dans le futur, le pétrole va devenir quelque chose de plus en plus rare. Alors, quand un produit est rare, il n'y a que 2 possibilités. Soit le prix augmente tellement que c'est un produit de luxe, soit on le substitue par un autre. L'intérêt, c'est que si on substitue le pétrole, par exemple, dans les voitures, par des voitures électriques, il y a de fortes possibilités pour qu'on puisse varier l'approvisionnement.
Notre petite Belgique, avec ou sans gouvernement, ne va pas déterminer à elle seule le prix du carburant. Alors, peut-être faudrait-il songer à l'après-pétrole. Facile à dire, difficile à concrétiser. Marc van der Kamen croit que la voiture électrique a un avenir prometteur. Oui, l'électricité aura un rôle à jouer dans la diversification des sources d'énergie. Mais aujourd'hui, le consommateur ne se voit pas encore au volant d'une voiture électrique.
Et surtout qu'un véhicule électrique, il faudrait surtout avoir un garage avec une prise, etc. À Bruxelles, c'est pas évident. Donc une voiture électrique, j'en fais quoi? Parce que je pense pas que pour l'instant la technologie soit suffisamment efficace. Un véhicule qui fait moins de 100 km d'autonomie, c'est pas très intéressant.
Experts et consommateurs sont conscients de la nécessité d'envisager un après-pétrole. Mais les uns et les autres se sentent impuissants face à ce défi. On peut donc dire que si la volonté est au changement, la solution, elle, n'est pas encore au rendez-vous. Monsieur Furfari, conseiller à la Commission européenne, partage ce scepticisme quant au substitut au pétrole, même s'il reconnaît la nécessité d'en trouver. Mais contrairement au directeur du CRIOC, il est confiant au sujet des réserves de pétrole. Selon lui, on ne sortira pas de sitôt de cette pétrodépendance.
On se trouve là coincé et ce qu'il faudrait faire, c'est trouver des alternatives au pétrole. Le jour où on trouvera des alternatives au pétrole, ça ira beaucoup mieux. Quand je parle d'alternatives, je parle d'alternatives abondantes, sérieuses, à un prix compétitif. Je ne parle pas des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont sympathiques, politiquement correctes et on doit les faire. Mais elles ne sont pas compétitives. Et donc, ce n'est pas elles qui vont changer le marché. Je crois qu'on n'est pas sorti de cette situation où on est pétrodépendant. Parce que, d'une part, il y a beaucoup de pétrole. Vous voyez l'article de notre collègue de l'ULB, le professeur Alain Préa, dans l'Écho du samedi 26 février, qui, dans toute une page, explique justement que du pétrole, il y en a tant qu'on en veut. L'autre problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de substitut valable pour le secteur du transport. 98% de l'énergie utilisée dans le secteur du transport provient du pétrole. 98%. Donc vous voyez, il ne faut pas rêver, on ne va pas changer ça du jour au lendemain. Tant qu'on n'a pas de solution, on peut danser sur notre tête.
Rationnel ou pas, l'augmentation est bien réelle. Certes, la flambée des prix créée par la crise en Libye sera vraisemblablement temporaire. Mais sur le moyen terme, il est clair que la tendance est à la hausse du prix du carburant. À l'heure actuelle, les automobilistes n'ont pas trop le choix et payent l'addition aussi salée soit-elle. Jusqu'à quel prix? Difficile à dire. Alors que faire? Tous les consommateurs n'ont pas les moyens de se payer des véhicules hybrides ou à moindre consommation, avec ou sans aide fédérale. Réduire la TVA, il est vrai qu'elle s'applique de façon similaire quel que soit le revenu. Ce mécanisme fiscal très inégalitaire devrait être revu, vu l'évolution qu'a connue le prix du pétrole. Cependant, réduire la TVA nécessiterait un consensus européen toujours difficile à obtenir. Donc, si rien ne change, les conditions sont réunies pour que l'or noir devienne un luxe, ou du moins grève sérieusement le budget des ménages. Son prix élevé pourrait le rendre encore plus sensible aux caprices des marchés, en devenant une valeur refuge pour les spéculateurs.